Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler un épisode de la vie de Jésus qui nous fournira le sujet d'une méditation enrichissante. Il s'agit de la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Voici la scène telle que nous la décrit Marc l'évangéliste. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voici donc une pauvre femme, épuisée par 12 ans de souffrance. Elle a consulté des médecins et divers guérisseurs plus ou moins charlatans. Elle se retrouve maintenant dépouillée, désespérée et plus malade encore qu'auparavant. Il est plus que probable que les ordonnances successives qu'on lui prescrivit tout le long de ces 12 années devaient être contradictoires. La médecine d'alors était assez rudimentaire, il est vrai. On traitait ce genre de maladie au moyen de potions diverses, ou bien en faisant asseoir le patient à la bifurcation d'une route, un verre à la main, et en lui faisant une grande frayeur, par exemple, en criant tout à coup dans son dos. Ou bien, remède plus décisif encore, en lui faisant absorber un grain d'orge trouvé dans le crottin d'un mulet blanc. On pourrait énumérer ainsi, pendant des pages, des pratiques aussi bizarres. Ayant perdu toute espérance du côté des hommes, après avoir mis vainement son espoir dans leur science, la pauvre femme, éclairée par ce qu'on lui dit de Jésus, a placé en lui toute sa confiance. Elle ira vers celui-là qui passe dans le pays, précédée de sa réputation d'envoyé de Dieu, de messager du royaume, et qui ne réclame qu'une démarche toute simple, toute facile, toute gratuite. Elle s'approche de Jésus. Allons-nous nous servir de notre texte pour affirmer que Jésus émettait des puissances mystérieuses semblables à des effluves magnétiques aux vertus guérissantes, ou bien pour prêcher le mépris de la médecine? Non, ce n'est pas dans cette direction-là que nous trouverons une édification véritable. Je voudrais vous aider à voir, dans cette femme, le symbole d'un peuple immense, du cortège séculaire de l'humanité qui souffre, qui erre, et qui va demander les guérisons de ses blessures à la porte de tous les faux docteurs. Je pense à cette course au plaisir qui caractérise notre siècle. Elle n'est souvent qu'une tentative de dissiper des regrets, de sécher des larmes ou d'oublier des soucis dans la lumière, l'ivresse et le bruit. Nombreux sont ceux qui se plaignent de ce que le boulanger et le boucher, par exemple, ont été obligés d'augmenter leurs tarifs de quelques centimes et qui ne reculent devant aucune dépense lorsqu'ils pensent pouvoir endormir dans le plaisir leur tristesse, leur remords ou leur peine. Mais l'heure vient bien vite, où le cœur dont les plaies demeurent ouvertes crie sa déception et sa lassitude. Cela n'a servi à rien. La maladie s'est au contraire encore aggravée. Qui pourrait me guérir? Voici ceux sur qui pèse toujours accru le poids des responsabilités et des angoisses. Ils s'endorment parfois avec l'espoir de ne plus se réveiller. Voici les ambitieux que la course à l'argent a laissés pauvres et amers. Voici ceux qui confondent plaisir avec bonheur, richesse avec réussite. Voici tout simplement l'humble peuple obscur de ceux qui, sans bruit, ont voulu tracer leur petit sillon dans le champ du bonheur. La mort est venue faucher les moissons qui se levaient, et c'est encore la maladie, ou l'ennui, ou la peur, qui courent sur le ciel de l'avenir comme des nuages noirs. Mais dans cette foule, tôt ou tard, certains reconnaissent l'absurdité d'une existence qui n'a que la mort pour ultime perspective. Ils comprennent que les bruits, la lumière et les plaisirs du monde ne sont que des remèdes de charlatans qui laissent déçus et abîmés. Alors, semblable à la femme de notre texte, mu par une secrète espérance, il s'approche timidement du Christ Sauveur, pressentant au fond de leur âme que c'est lui qui assouvira pleinement leurs besoins les plus fondamentaux. N'a-t-il pas dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oui, ce sont des paroles pleines de promesses qu'il adresse à tous ceux qui, par leur course folle au bonheur, montrent qu'ils ont faim et soif de plénitude. Mes chers amis, s'il y a parmi vous quelqu'un que la vie a ainsi déçu, quelqu'un qui espérait dans les promesses du monde et qui se trouve à présent vide et seul et insatisfait et triste, oh, qu'il sache que c'est dans cet ébranlement de la confiance que jaillit souvent l'étincelle de la foi. C'est la foi humble et tremblante qui naît du besoin. Notre Seigneur compte sur cette lucidité qui vient à ceux que l'existence a malmenés, parce qu'ils ont pu voir le vrai visage du monde derrière son masque de lumière. Ils sont maintenant disposés à entendre celui qui dit à tous « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il y a encore un détail qui me frappe dans ce récit. C'est la manière discrète, timide, craintive même, avec laquelle la femme s'est approchée de Jésus. Elle a confiance en lui. Elle sait que dans cette foule considérable qui lui fait escorte, se trouvent des démoniaques qui ont retrouvé leur bon sens, des aveugles dont les yeux ont été ouverts, des méprisés qui ont reconquis une dignité, des vaincus qui chantent la joie. Jésus est un sauveur. Cette foule le dit, elle le proclame, le démontre. Si l'amour de Dieu est révélé en lui, ce trésor offert au monde est aussi pour elle. Jésus sera mon sauveur, je serai guéri. Mais elle sait que son cas est délicat. Selon la loi juive, elle est impure. Son infirmité est humiliante. Même le temple lui est interdit. Depuis 12 ans, elle s'est habituée à vivre dans l'effacement. Elle n'osera jamais s'adresser à ce grand prophète en face. « Mais si seulement je puis toucher ses vêtements, se dit-elle, je serai guérie. » Alors, par derrière, en tremblant, elle ose toucher l'une de ces franges que les Juifs portaient à leur manteau. Aussitôt, elle sent qu'en elle, la source de sang s'est tarie. Éperdue de bonheur, elle voudrait maintenant disparaître sans attirer l'attention. Mais une question de Jésus l'arrête sur place. « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples s'étonnent. Depuis longtemps, la foule le presse, le touche, le porte dans son flot. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus sait, lui, qu'une âme l'implore. Parmi tous ceux qui la côtoient, parmi tous ceux qui sont là autour de lui, qui le touchent, qui le pressent, parmi tous ceux qui n'ont envers lui qu'un mouvement de curiosité ou de méfiance, de haine ou d'incrédulité, il distingue immédiatement le mouvement de la foi, l'espérance d'une âme qui vient mendier une bénédiction. Mes amis, personne ne se sent digne de s'approcher du Seigneur, et nous ressentons quelque chose du trouble intérieur qui faisait dire au centenier de Capernaum « Seigneur, n'entre pas sous mon toit, je ne suis pas digne. » Mais sachez bien, et comprenez-le à travers cet épisode de sa vie, que Jésus discerne la démarche la plus timide quand cette démarche est sortie d'un cœur sincère et assoiffé d'amour et de salut. Se sentir indigne de lui, c'est, semble-t-il, le moyen le plus sûr d'attirer sur nous son regard d'amour. Il voit la malade. La voilà à ses pieds, troublée, tremblante, qui lui dit toute la vérité, sa souffrance, ses amertumes, ses larmes. Et il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors, elle comprend que celui qui a ainsi le pouvoir de guérir est amour. Pourquoi donc avait-il eu peur ? Le messager de Dieu lui parle et la regarde, comme peut le faire celui qui est venu dans le monde pour les petits et pour les perdus. Elle reçoit de lui infiniment plus qu'elle n'osait espérer. Mes chers amis, il y a ici pour nous une leçon très importante. Peut-être sommes-nous de ceux qui pressons Jésus dans la foule, et non pas de ceux qui s'approchent de lui pour le toucher, pour être bénis de lui. Nous portons peut-être le nom de chrétiens. Nous nous acquittons de certains devoirs religieux comme on s'acquitte de notre devoir électoral. Nous sommes ainsi dans la foule, plus ou moins proches de Jésus. Mais comme nous sommes là sans rien espérer, Sans rien demander, nous ne recevons rien. Dieu n'est pas encore entré dans notre existence parce qu'il n'y a pas de place. Mais il en est qui, timidement, sont venus un jour s'asseoir au dernier banc de l'Église pour abriter un instant leur désespoir, avec dans le cœur une soif de salut. Ils n'ont touché que le bord du manteau. Ils ont recueilli une parole, un appel, une promesse, et cela a suffi pour alimenter en eux la foi rayonnante, pour gonfler leur cœur d'une immense espérance, pour les rendre possesseurs d'une richesse qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Il est évident que le chemin de la conversion ne passe pas obligatoirement par le désespoir. Mais nous ne serons jamais convertis au Christ si nous ne pouvons pas faire nôtre ce cri de l'apôtre Pierre alors que Jésus vient de demander à ses disciples s'ils ont l'intention de l'abandonner. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Je voudrais vous encourager à sortir de l'anonymat de la foule, attirer l'attention de celui qui s'est donné pour vous. Sentez au fond de vous que sans lui la vie n'a aucun sens, qu'il est venu vous apporter la vie véritable. Comme tous les vrais disciples, détournez-vous de tout ce qui vous écartait de lui. C'est le vrai repentir. Et recevez le baptême en son nom pour faire de sa mort et de sa résurrection des événements qui vous concernent personnellement. Alors, il vous recevra dans son Église, qui est l'assemblée de tous ceux qui lui appartiennent. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce cri d'appel lancé par les apôtres s'adresse aussi à vous. C'est une invitation à saisir ce Jésus qui passe dans la foule. Le monde, vous le savez, ne peut vous offrir que des remèdes trompeurs, et lui-même tremble devant la mort. Jésus seul est le médecin bien-aimé qui peut vous faire naître à une nouvelle vie. Toucherez-vous aujourd'hui le bord de son manteau ?